Bonjour à tout le monde. Vous êtes endormi là? Non? Vous êtes toujours là?
Là, oui.
Vous êtes là, bougez les mains.
On est là.
Ouais, c'est bon. Je vois que vous ne dormez pas encore. Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans le monde de l'Ancien Testament pour le message. Et on va regarder dans la période de l'histoire qui date d'il y a 4000 ans. Est-ce que vous avez une idée de qui on va parler il y a 4000 ans? Personne n'a une réponse? Bon, je vais répondre tout de suite et je vais mettre une carte, je vais partager mon écran. On va parler du monde, du premier patriarche d'Abraham, mais on ne va pas parler d'Abraham, pas en partie quand même. Alors, on va parler ce matin d'un homme qui s'appelle Eliezer, que j'ai noté un homme d'exception. C'est pas sa photo à droite. La photo à droite, c'est en fait. C'est en partie une histoire de chameau aussi. Et si vous êtes déjà venu dans l'Inde par le pont de Mâcon, le pont central, vous verrez en ce moment, je pense qu'ils sont toujours là, des chameaux. Donc moi, j'ai pris mes illustrations ce matin, c'est mes photos des chameaux qui sont à Mâcon actuellement, juste à Saint-Laurent, voilà, pour la petite histoire. Et donc, cette première image, c'est juste vous donner une idée géographique de notre histoire, le contexte. Si vous voyez tout en haut, je ne sais pas si vous voyez bouger ma souris, mais voilà. Donc, c'est la région de d'Ur, des Chaldéens. Donc, c'est Chaldéens, voilà. Donc, c'est de là il vient Abraham. À l'époque, et donc quand Dieu lui dit de quitter son pays, il descend ici dans cette partie du monde qui s'appelle Canaan. Et donc c'est là où Abraham habitait. Son fils Isaac, après qu'Isaac est né, il se trouve dans cette région ici. Qui s'appelle Lahaï roi. Et le voyage qu'on va tracer, bon, on va pas tracer tout le voyage, mais le voyage dont on va parler, c'est le voyage d'Eliezer qui monte jusqu'à dans le pays d'Abraham à Haran, et puis fait le aller-retour jusqu'à retrouver Isaac. Voilà. Donc ça, vous avez une idée du trajet qu'on va faire. Pour vous dire, donc Abraham, c'est le premier patriarche, le père du peuple juif, la personne avec qui Dieu a conclu une alliance pour établir ce peuple, le peuple juif. Il est le premier d'une ligne humaine à travers laquelle Jésus naîtra. Et Dieu a fait des promesses à Abraham, comme vous le savez, notamment la promesse d'un fils, la naissance d'un fils. Et Abraham avait un serviteur appelé Éliézer. Et nous rencontrons Éliézer à deux reprises en Genèse. Le premier passage, c'est en Genèse 15. Et le deuxième, le grand passage où on trouve Éliézer, c'est en Genèse 24. Et je trouve, après lecture, après étude de ce personnage, que Éliézer est vraiment un homme d'exception et il peut être un modèle pour nous. Et donc, pour commencer, on va lire le premier passage où on le retrouve. Et si vous voulez tourner dans vos Bibles, c'est en Genèse 15. Donc, Genèse 15, c'est la première lecture. Et Sandrine va faire la lecture de ce premier passage pour nous.
Après cela,
la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. « N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Dieu, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendants. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. » Alors la parole du Seigneur lui parvint. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. » Il le mena dehors et dit, « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui dit, « Ainsi sera ta descendance. » Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice.
Alors là, sur ce verset-là, on peut faire des messages. Je veux dire, Abraham met sa foi dans le Seigneur, il lui compta comme justice. Zach m'a demandé l'autre jour, mais comment il faisait avant Jésus pour être sauvé? Et puis, bon, ma réponse venait de là. Abraham a mis sa foi dans le Seigneur et Dieu lui comptait ça comme justice. Voilà une réponse à cette question de Zach. Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui, c'est un message de notre jour. On va continuer la lecture avec qui se trouve en Genèse 24. C'est la deuxième passage où on retrouve Éliézer. Et Sandrine va lire juste ce premier petit bout de verset de Genèse 24.
Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, celui qui administrait tous ses biens.
Alors donc, on va d'abord regarder la relation entre Abraham et Éliézer. Et on voit dans ces deux textes certains éléments de cette relation entre les deux. Donc, ces deux textes montrent que d'abord, Éliézer a été le serviteur d'Abraham. Donc, il était au service d'Abraham dans sa maison. Il est né dans la maison d'Abraham et donc, il est avec lui toute sa vie. Donc, il est né dans la maison d'Abraham, il est son serviteur. Bon, et il y a question, enfin, je ne vais pas traiter cette question qui est une question de compréhension des anciens textes, mais on se demande pourquoi il est nommé Éliézer de Damas et il est né dans la maison d'Abraham. Donc, il y a différentes explications qui peuvent être données, mais c'est pas la chose centrale à traiter aujourd'hui. La chose à savoir, c'est que il est né dans sa maison, donc il est avec Abraham toute sa vie. À l'époque de Genèse 24, on voit que Éliézer est le plus ancien des administrateurs de la maison d'Abraham. Donc, c'est celui qui est là, ou soit le plus âgé, celui qui est là le plus longtemps. Et Éliézer gère tous les biens d'Abraham. Et donc, il est, pour ainsi dire, le bras droit d'Abraham. Puisque Dieu... au départ, en Genèse 15, puisque Dieu n'avait pas encore accordé d'enfant à Abraham, Éliézer était aussi nommé l'héritier d'Abraham. Donc, vraiment une relation très proche, très spéciale entre ces deux hommes. Et on va parler juste un petit mot de cette idée d'Éliézer qui est héritier de la maison d'Abraham. Dans le Proche-Orient antique, on avait coutume de faire d'un serviteur l'héritier d'une famille dans le cas où il n'avait pas d'enfant. L'homme et la femme sans enfant adoptés, entre guillemets, un adulte, serviteur. Donc, cette serviteur adulte adopté devient l'héritier de la maison. C'était un moyen pour eux de protéger leur terre, leurs biens, et d'avoir quelqu'un qui prenait soin d'eux lorsqu'ils ne seraient plus capables de le faire eux-mêmes. À cette période de sa vie, donc en Genèse 15, Abraham se disait peut-être que son serviteur Eliezer, c'était son seule option pour garder ses terres et ses biens. Il voyait toujours pas venir ce fils qui était promis par Dieu, et j'imagine que certainement il se souciait de ce fait qu'il n'avait pas encore un fils, et il avait tous les biens qu'il avait, les troupeaux, etc. Et donc il nomme cet homme Eliezer comme héritier de sa maison. Donc en fait, et dans le passage de Genèse 15, il se plaint un peu, si tu veux, à Dieu que le fils n'est pas encore et il doit donner son héritage à son serviteur Eliezer. Mais tout ça pour dire que c'est une relation très proche, très spéciale entre ces deux hommes. Eliezer est donc le serviteur et pendant un moment l'héritier d'Abraham. Et en plus, Abraham, comme j'ai dit, était un homme riche. Il est devenu riche. Le Seigneur l'avait béni en tout, dit le verset. Il possède des terres, des serviteurs, des troupeaux, de l'or, de l'argent. Il a tout ce qu'il faut, mais il manque, en Genèse 15, il manque le fils. Et comme il n'a pas de fils, c'est Eliezer qui hérite tout, qui est censé héritier de tout. Mais chacun sait que Dieu tient sa promesse en faveur d'Abraham et qu'un fils plus tard lui est donné. Et donc, quand on arrive en Genèse 24, c'est le cas. Isaac est déjà né. Et puis, on a ce nouveau, cette nouvel épisode avec Eliezer. Et donc, bien plus tard, après Genèse 15, Genèse 24, c'est là qui se déroule la scène après la naissance d'Isaac. Et là, on va lire maintenant en Genèse 24, mais juste, on va pas tout lire, c'est un très long passage sur tout ce qui se passe dans cette histoire, mais on va juste lire la première partie, et puis après je vais résumer le reste. Donc je vais repartager mon écran pour que Sandrine puisse nous faire la lecture du début du passage de Genèse 24. Et voilà.
Abraham était devenu très vieux. Le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Un jour, Abraham dit au plus âgé de ses serviteurs qui administrait tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par le Seigneur, le Dieu des cieux et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme de ce pays de Canaan où j'habite. Jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine et que tu choisiras dans ma parenté une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « La femme refusera peut-être de me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays que tu as quitté ?»« Non, répondit Abraham, garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. « Le Seigneur, le Dieu des cieux, m'a fait quitter la maison de mon père et mon pays d'origine. Il m'a parlé et m'a juré de donner ce pays-ci à mes descendants. Il enverra son ange devant toi pour que tu ramènes de là-bas une femme pour mon fils. » Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que tu m'auras fait, mais en aucun cas ne ramène mon fils là-bas. Le serviteur met alors sa main sous la cuisse de son maître Abraham et lui jura d'exécuter ses ordres. Il prit 10 des chameaux de son maître et emporta tout ce que celui-ci avait de meilleur. Il se mit en route vers la ville de Nahor, en haute Mésopotamie.
Donc voilà, vous avez le début de Genèse 24, et on va parler du vœu qui est fait en ce moment-là. Certains suggèrent qu'à ce moment de sa vie, Eliezer, il a environ 85 ans, donc c'est pas un jeune homme. Bon, il faut dire que peut-être les personnes vieillissaient de manière différente à l'époque, mais quand même, il a environ 85 ans. Et ça fera aussi d'Abraham quelqu'un de très vieux, et on estime à peu près 140 ans. Donc c'est possible qu'il a, il a dépassé les 100 ans, il est très vieux. Alors, un mot sur ce geste, je ne sais pas si vous avez remarqué, la manière de sceller cette alliance, ce vœu, c'est que Abraham demande à son serviteur Eliezer de mettre la main sous la cuisse. Alors, pour faire promettre à Eliezer qu'il fera ce qu'il lui demande de faire, Abraham demande à Eliezer de mettre sa main sous la cuisse. Ce qui peut être un euphémisme pudique pour désigner une autre partie du corps. Certains commentateurs le disent. Et il demande de jurer par le Seigneur. Pour Abraham, ce moment de sa vie, c'est pas une blague. C'est un moment, ce moment pour lui est capital. Maintenant que Dieu a accordé un fils à Abraham, Dieu a tenu sa promesse de l'arrivée de ce fils promis. Là, il faut qu'il assure maintenant la continuité de sa lignée, comme Dieu le voulait et comme Dieu a promis. Et Abraham est vieux, la mort approche. Et donc ce geste là, c'est une manière de dire vraiment, je te demande de promettre que tu vas faire ce que je demande de faire. Et ce geste, en lisant les commentateurs, c'est un geste unique. On trouve nulle part dans les écrits des peuples antiques du Proche-Orient un autre exemple d'un tel geste pour sceller un serment. Donc, chose curieuse, mais chose qui démarque l'importance du moment. Dans l'ordre donné par Abraham, Isaac ne doit pas se marier avec une femme d'une autre tribu, donc pas une femme de Cananaïtes, parce que eux, ils étaient des païens. C'était les adorateurs de plusieurs dieux. Ils avaient des pratiques qu'Abraham n'avait pas. Abraham, c'est le premier, enfin pas le premier, mais il est monothéiste. Il adore le seul vrai Dieu. Et le peuple parmi lequel il habite en d'autres pratiques. Et Dieu a lui appelé à autre chose. Et donc pour Abraham, sa famille devait rester à part, devait pas se mélanger avec ces tribus qui ont d'autres pratiques d'adorer plusieurs dieux, etc. Alors dans le passage qu'on vient de lire aussi, c'est on a la mission que Abraham donne à ce moment-là. Abraham donne à Eliezer. Il doit entreprendre un très long voyage d'au moins 700 kilomètres. Donc on a vu la carte tout à l'heure, mais c'était un voyage de minimum 700 kilomètres de Canaan à Haran, et cela à dos de chameau. Moi je saisis pas la chose parce que j'ai jamais voyagé en chameau, mais c'est plus lent que nos voitures, nos avions, nos trains, etc. Et donc il doit se rendre dans cette ville qui s'appelle Nahor, qui est certainement la ville du frère d'Abraham, pour rencontrer des personnes qu'il connaît pas, pour retrouver une jeune femme qu'il connaît pas. Il a une mission un peu particulière, et cette femme devait devenir l'épouse d'Isaac, le fils d'Abraham, le fils qui devait assurer la lignée de ce peuple que Dieu a choisi. Alors la distance, pour que vous vous rendez compte de la distance de ce voyage en chameau, c'est la distance entre Mâcon et Dortmund en Allemagne. Donc, si aujourd'hui vous allez à Saint-Laurent, vous prenez un de ces chameaux et vous démarrez votre voyage, vous allez jusqu'à Dortmund. Ou bien vous allez jusqu'à Bruges en Belgique. Je ne sais pas si vous avez fait la visite de Bruges, mais vous faites Mâcon-Bruges en chameau. Voilà, donc ça, c'est la distance. Et on dit que, en faisant de mes lectures, qu'un chameau, normalement, c'est un chameau sportif en bonne santé, un chameau, il peut faire 30 km dans une journée. Donc Mâcon-Dortmund, 700 km, en fait, vous allez faire à peu près un mois minimum de voyage en chameau. Donc, la mission donnée à Eliezer, c'est pas rien. Et dans sa mission, il est défendu d'amener Isaac. Abraham a certainement peur que si Isaac part dans le pays natal d'Abraham, qu'Isaac va y rester. Et Dieu a promis à Abraham une terre. Et donc, Abraham veut que son fils reste dans le pays de Canaan. Abraham ne veut pas qu'il quitte le pays que Dieu lui a donné. Et si la femme qu'Eliezer doit ramener ne souhaite pas venir, il est dégagé de son serment envers Abraham. Donc, il y a une condition qui le libère un peu de son vœu, si ça se passe comme ça. Mais Abraham, grand homme de foi, dit dans ce passage que Dieu va le précéder son serviteur en envoyant son ange. Et là, on voit une preuve de la foi d'Abraham qui a expérimenté tant de choses avec Dieu. Alors, un petit mot donc sur la condition donc encore sur la relation d'Eliezer et Abraham à ce moment-là. À ce moment de sa vie, Eliezer n'est plus l'héritier d'Abraham. C'est-à-dire, d'abord, il était nommé comme ça parce que le fils ne venait pas. Par la suite, Isaac est né et donc il a perdu cette position d'héritier. Et donc, il pourrait se dire intérieurement que cette mission, partir un mois de voyage, trouver une femme, une famille qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas comment il va retrouver, il peut se dire que cette mission ne l'intéresse pas. La littérature juive que j'ai lue, il suggère même que sa propre fille, Eliezer, aurait pu prétendre à épouser Isaac. Et donc, Eliezer pouvait rentrer de nouveau, si vous voulez, dans une relation plus proche avec Abraham. Et donc, ça pourrait être une autre raison de ne pas être motivé pour faire cette mission, d'entreprendre ce voyage. Mais Eliezer se met en route pour accéder à la volonté de son maître. Alors, la suite de l'histoire, je ne sais pas si vous le connaissez, toute cette histoire entre Eliezer quand il monte dans le pays d'Abraham, mais je vais le résumer, je ne vais pas lire tous les textes, le texte est très très long, vous pouvez le lire vous-même si vous le souhaitez, mais je veux surtout quand je résume, qu'on se focalise sur les actes et les attitudes d'Eliezer dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée. Alors donc, je commence mon résumé de cette séquence où Eliezer arrive dans le pays d'Aran et il se retrouve au puits où il devait rencontrer cette jeune femme qui allait devenir l'épouse d'Isaac. Et donc, il fait son long voyage. Il se met à l'extérieur de la ville, près d'un puits, le soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser l'eau. Première chose qu'il fait, en Genèse 24, 12, il prie. C'est une chose. Il prie. Abraham, monothéiste dans un pays de païens, son serviteur, il prie. Dans sa prière, il demande à Dieu d'agir avec fidélité envers qui? Envers Abraham, son maître. La prière d'Eliezer, c'est que Dieu soit fidèle à Abraham. Ensuite, il propose une situation, un moyen de déterminer s'il va retrouver la bonne personne ou pas. Donc, il est au puits, il recherche cette jeune femme qui doit devenir l'épouse d'Isaac, mais il sait pas comment il va le retrouver. Donc, il propose une manière à Dieu de la retrouver. Et donc, la clé de cette manière, c'est que la jeune femme réponde, quand Eliezer pose une question, que la jeune femme réponde, « Bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Ça, c'est la clé pour savoir s'il a retrouvé la bonne personne. Alors, juste un petit mot culturel sur cette méthode. C'est-à-dire que Eliezer, il pose cette condition à Dieu. C'est-à-dire, il propose cette condition pour répondre à Dieu. Et dans le monde antique, on utilisait ce moyen pour retrouver une réponse claire à une situation. On posait une question oui ou non à une divinité. Ce n'était pas uniquement des peuples juifs qui faisaient ça. D'autres peuples le faisaient, mais on posait une question oui ou non à une divinité, puis on spécifiait comment la divinité devait répondre. Et on trouve d'autres exemples de cela dans la Bible, le cas de Gédéon, si vous voulez, quand il pose le toison. Il y a un exemple des pays païens où Jonas, qu'est-ce qu'on fait avec Jonas? On le laisse dans le bateau ou on le jette? Donc, il pose une question en quelque sorte aux divinités. Même les prêtres du peuple d'Israël, ils avaient ce qu'on appelait les Urim et les Thummim, des manières pour répondre à ces questions qu'ils posaient à Dieu. Et donc, ici, Eliezer improvise une situation assez improbable à Dieu. C'est-à-dire, la jeune femme qu'il aborde, elle doit non seulement lui proposer à boire à lui, mais elle doit aussi proposer de faire boire tous ses chameaux. Ça, c'est la condition. Et si on lit le texte, il avait une dizaine de chameaux. Il a quitté le pays d'Abraham avec une dizaine de chameaux. Et donc, si cela se réalise, ça serait vraiment improbable. Donc, normalement, les personnes ne sont pas obligées de faire boire les animaux, juste la personne. Il faut juste offrir à boire à la personne. Et donc, si cette femme, elle propose à boire, faire boire aussi les animaux, c'est exceptionnel. Et donc, c'est ça la condition posée par Eliezer à Dieu pour répondre à cette question, est-ce c'est bien elle ou pas? Deuxième note culturelle, et pour vous donner une idée de combien c'est exceptionnel cette réponse, un chameau qui n'a pas bu depuis plusieurs jours peut boire jusqu'à 100 litres d'eau. C'est beaucoup, hein? Et si on a 10 chameaux, chacun qui peut boire jusqu'à 100 litres, on a calculé avec les ustensiles de l'époque que ça peut être 10 jarres d'eau par chameau, qui veut dire une centaine de trajets au puits pour puiser l'eau pour faire boire les 10 chameaux. Cela représente des heures, probablement des heures de travail. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose, un effort vraiment exceptionnel qui est, si la jeune femme le propose, c'est quelque chose d'exceptionnel qui est proposé. Alors donc, on va reprendre la suite de notre résumé de cette rencontre entre Eliezer et la jeune femme. Alors, quand il aborde la jeune femme au bord du puits, elle répond effectivement, bois, et je donnerai aussi à boire à vos chameaux. Donc, Là, la réponse est donnée. Et puis, elle va faire le travail. Donc, elle puise l'eau pour les chameaux des déserts. Donc, pendant qu'elle fait ce travail, le texte nous dit, Eliezer patiente, il est là, silencieusement. Eliezer regarde attentivement cette jeune femme, parce qu'il est certainement toujours, même s'il a cette réponse, il y a certainement une partie d'incertitude si c'est vraiment elle ou pas. Et puis, à un moment, il ose demander, enfin, il poursuit sa recherche, disons, et il demande à quelle famille elle appartient. Et il s'avère que c'est la même famille qu'Abraham. Alors, je vais mettre une nouvelle image, juste pour montrer la réaction à ce moment-là d'Eliezer, parce qu'on se focalise sur les actes et les attitudes de cet homme. Et si vous voulez tourner en Genèse 24, au verset 26 et 27, c'est vraiment un verset clé pour discerner le cœur de cet homme. Donc, je repartage mon écran avec vous. Et on va lire la réaction d'Eliezer lorsqu'il sait que cette jeune femme vient de la même famille qu'Abraham.
Alors le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. »
Voilà, donc on voit vraiment ici le cœur de quelqu'un qui n'est pas sous contrainte de faire quelque chose. Son attitude, c'est remerciement à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et béni, il a certainement un profond... Il est conscient du fait que Dieu a fait des promesses à Dieu. Il a vu son maître attendre l'arrivée d'un fils. Il a vu l'accomplissement de cette partie de la promesse de Dieu à Abraham. Et donc ici, il dit, merci Seigneur, parce que tu ne cesses pas d'être fidèle à ta promesse à mon maître, à Abraham. Il est témoin de la fidélité de Dieu envers Abraham, et comme il était témoin de la longue attente d'Abraham dans l'accomplissement de ses promesses. Alors, dans la suite de l'histoire, on a Eliezer qui se rend à la maison de la jeune femme. Maintenant, il faut rencontrer la famille, maintenant qu'il est convaincu que c'est la jeune femme qu'il faut pour Isaac. Il dévoile la teneur de sa mission directe à la famille qui est là. Et il fait cela avant d'accepter toutes sortes d'hospitalité. En fait, on voit dans le passage qu'ils veulent offrir l'hospitalité. Il dit non, moi je suis dans ma mission. Et il parle d'abord de ce qu'il est venu faire. Il est focalisé sur la mission qui lui est confiée par son maître. Et donc, il parle de la situation d'Abraham. Ça, c'est noté en verset 35. « L'Éternel a richement béni mon maître. Il a fait de lui un homme important. Il lui a donné des moutons, des chèvres, des bovins, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux, des ânes. » Bon, là, il est peut-être en train de vendre son projet. Si vous voulez, à la famille, parce qu'il débarque, cette famille ne connaît pas cet homme. Et donc, il parle de la situation d'Abraham. Il parle aussi de la condition qui est donnée, que cette femme soit issue du peuple d'Abraham. Bon, ce qui peut flatter peut-être la famille aussi, de savoir qu'Abraham cherche quelqu'un de sa propre tribu et pas une famille d'une autre peuple. Il parle maintenant de la manière dont Dieu a demandé de répondre à cette question. En fait, lui, il étale tout le processus qu'il a entrepris pour savoir si c'était la bonne jeune femme ou pas. Donc, il parle de cette démarche qu'il fait envers Dieu. Il a dit, est-ce qu'elle va répondre ? Je fais boire aussi vos chameaux. Donc, il parle de cette démarche. Et il leur dit aussi qu'il a prié. Si vous lisez toute l'histoire, il raconte tout à la famille. Il raconte tout ce qu'il a vécu pour démontrer que, voilà, il pense que cette chose vient de Dieu. Alors, juste un petit mot, et puis bon, c'est un petit mot plutôt personnel, un questionnement personnel pour moi, un moment dans ma vie sur la prière. Il est noté dans ce texte certaines choses que moi, à un moment de ma vie, je me posais la question sur la prière. C'est la manière de prier. Et dans le texte, c'est noté, je n'avais pas encore fini de prier en moi-même. Notre traduction dit « avant que je n'ai achevé de parler en mon cœur ». Et dans le mot en hébreu « en mon cœur », c'est « libi ». Ça part du fort intérieur, ça part de son intérieur à soi, son cœur. Et moi, je me demandais un moment, est-ce que c'est légitime de prier silencieusement dans sa tête comme ça? Est-ce qu'il est OK avec cette manière de prier? Je trouve dans ce passage une réponse assez claire à cela. On peut prier à haute voix seul, on peut prier à haute voix ensemble dans un groupe. Mais on peut aussi prier à l'intérieur, dans notre esprit, dans notre tête, dans notre cœur. On peut demander à Dieu quelque chose de cette manière, et Dieu écoute cette prière parce qu'il a écouté cette prière de la part d'Élisère. Donc c'est juste un petit passage, un petit aparté qui, pour moi, à un moment, c'était une question et où j'ai trouvé une réponse dans cette histoire. Alors, je continue le résumé. Donc, il est avec la famille, il raconte tout ce qui s'est passé pendant sa rencontre avec leur fille. Et il leur dit maintenant, il leur demande de livrer leur jugement. Et je trouve que dans sa manière, il n'est pas du tout présomptueux en parlant à cette famille. Le verset 49 dit « Si vous voulez témoigner une sincère bienveillance à mon maître, dites-le-moi. Sinon, donc il donne l'option, donc c'est pas, il force pas la chose, sinon dites-le aussi pour que je tourne d'un autre côté ou pour que je vous quitte, si vous voulez. » Donc il est vraiment, il fait ça de manière respectueuse, diplomatique envers cette famille. La réaction des parents de cette jeune famille, ils viennent de rencontrer cet homme qui débarque dans leur maison, qui dit que leur fille doit partir avec lui et épouser une personne qu'ils connaissent pas du tout. Et les parents, après avoir entendu tout le discours d'Élisère, ils disent « cela vient de Dieu ». Donc, Dieu, on a lu plus tôt que Dieu envoyait, précède Élisère avec son ange. Dieu répond d'Élisère d'une manière concrète. Élisère est capable de raconter tout ça à la famille en vendant son projet, mais en disant surtout tout ce que Dieu a fait dans cette rencontre. Et donc la famille dit oui, Alors, quelle est de nouveau la réaction d'Eliezer et envoie ses attitudes et son cœur dans sa réaction quand la famille dit oui. La réaction d'Eliezer, c'est qu'il se prosterne de nouveau devant Dieu. Il est dans la maison, il est à la maison avec cette famille qu'il ne connaît pas. Et ils disent oui, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. C'est quand même quelque chose, je veux dire, c'est quand même un geste exceptionnel. Nous, on peut dire, oh, bah, c'est de l'époque, etc., il se faisait comme ça, mais quand même, cet homme, il se met par terre devant cette famille pour remercier le Seigneur. Cette fois-ci, c'est devant toute la famille. Par la suite, il donne des présents qu'une famille donne dans le cadre d'une promesse de mariage, des objets d'argent, d'or, des vêtements, des riches présents au frère Laban cette jeune femme, des présents qui sont donnés à sa mère. Puis, donc là, c'est conclu. La nuit tombe. Eliezer et ses hommes passent la nuit dans la maison de cette famille. Le lendemain matin, première chose qu'il fait encore, Eliezer qui dévoile encore son caractère, il rend tout l'honneur à Dieu. Il dit, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, il attribue le succès de tout ce qu'il a entrepris à Dieu. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, et comme il a le souci de plaire son maître, il soumet sa demande de partir aussitôt. Il ne veut pas rester. Il reste focalisé encore sur sa mission. Il veut entreprendre encore un mois de voyage pour retrouver Isaac et la maison d'Abraham. Alors, une petite note culturelle sur cet échange. Et là, on est dans le contexte d'un contrat de mariage, si vous voulez. La dot est donnée. Il a donné des présents. Cette première garantie de la bienveillance de la famille d'Abraham. Mais il faut dire que toute cette idée de mariage s'est déroulée très, très vite. Hein. Normalement, c'est un processus plus long et ça s'est déroulé très, très vite. Alors, on se rencontre au puits. Et puis, hop, le lendemain, on part pour rencontrer sa fiancée. Ça peut être un vrai choc pour la famille de la jeune femme, n'est-ce pas? Un jour, c'est notre fille est là, le lendemain, on veut l'amener ailleurs, à plus de 700 km de distance, dans un pays qu'on connaît pas, dans une famille qu'on connaît pas. Bon, ça se voit qu'ils sont riches, etc. Bon, c'est le même tribu, mais quand même, il doit avoir de l'émotion de la part de la famille pour laisser partir leur fille. Et avec un mois de voyage séparant les deux familles, la femme serait complètement coupée de la protection que sa famille pourrait lui apporter normalement. Et en plus, à cette époque, jusqu'au moment où la femme allait donner un enfant à sa nouvelle famille, le statut de la femme dans cette nouvelle famille n'était pas totalement sûr. C'est-à-dire, on se marie, on va dans la nouvelle famille, mais si on ne donne pas d'enfant, il peut avoir des difficultés. Quand la famille de l'épouse était géographiquement proche, le nouveau mari était moins susceptible de la maltraiter, ou de l'abandonner par crainte des réactions de la belle famille qui était proche. Mais là, on parle d'une grande distance, 700 km, un mois de voyage. Ici, pour Rebecca, pour cette jeune femme, pour la famille, elle part à l'aventure, entre guillemets. Mais comme on dit, on sait que elle est entre de bonnes mains avec Eliezer. Eliezer était quelqu'un d'admirable, un homme d'exception, un modèle à suivre en bien des aspects et un modèle pour d'autres serviteurs. Et voici en quoi nous pouvons nous inspirer d'Eliezer dans notre propre vie. Donc je vais juste afficher quelques traits de caractère, quelques actes et actions d'Eliezer qui peut nous inspirer aussi dans notre propre vie. Donc je vais repartager mon écran. Et donc on voit donc toutes les choses qu'il a faites et puis des choses que nous on peut imiter dans notre vie. Et puis bon, on peut dire si on relit ce texte que qu'Eliezer était serviteur dans la maison d'Abraham, donc il était sous une contrainte d'accomplir cette mission. Bon, il est peut-être pas aussi admirable que ça, mais je pense que toutes les choses qu'on a vues dans la vie d'Eliezer, le fait qu'il a passé toute sa vie avec Abraham, que Abraham avait une totale confiance en lui, qu'il était celui qui gère ses biens, qui confie cette mission qui pour lui est capitale de voir la continuité de sa lignée à travers une épouse pour Isaac. Je pense que vraiment Eliezer était un homme admirable, un homme d'exception. Et donc on voit que Eliezer il travaille de manière à gagner confiance de ceux pour lesquels il travaille. Abraham, comme je viens de dire, il avait une totale confiance en lui. Et nous, dans notre travail, on peut et on doit aussi travailler de cette manière. De la même manière qu'il a bien géré les tâches confiées, nous aussi. Et moi, je trouve qu'on a aussi des modèles dans notre propre église de personnes qui travaillent de cette manière. On voit que Eliezer cherchait la direction de Dieu dans sa vie et quand il avait des questions. Nous aussi, ça doit être une première réflexe, pas juste de faire sans demander, mais de chercher la direction de Dieu dans nos décisions. On voit l'exemple de la prière chez Eliezer. Il prie dans son cœur, il prie devant cette jeune femme. Il est dans un groupe de personnes qui connaît pas. Il se prosterne devant Dieu pour le louer. Il prie. Et en faisant cela, il honore Dieu. Que ce soit en petit comité ou dans un groupe. Et on peut avoir un réflexe de cacher, nous, notre amour, notre fidélité à Dieu quand on est dans un contexte social, en dehors des personnes qu'on connaît, mais lui l'a fait de manière évidente, qui donne l'honneur à Dieu. Il cherche le bien de son maître. S'il était motivé par le fait de devenir héritier de la maison d'Abraham, on peut dire que ses motivations ne sont pas bonnes. Là, c'est pas le cas. Là, on voit qu'il cherche à honorer aussi son maître, la personne pour laquelle il travaille. Il cherche le bien d'Abraham et pas forcément le sien. Il entreprend un voyage certainement pénible à 85 ans. Il cherche le bien de son maître. On voit qu'il reste focalisé aussi sur sa mission. Dans notre vie, on peut perdre notre chemin parfois. En faisant des choses qui ne contribuent pas à notre mission de plaire à Dieu, de suivre Dieu. Là, on voit que lui, il reste focalisé sur cette mission. On voit qu'il le fait aussi sans hésitation. Il a envie de, peut-être qu'il est pressé parce qu'il est vieux, il est fatigué, il a envie de rentrer à sa maison, mais mais on voit qu'il a accompli sa mission avec empressement. On verra Abraham, son maître, on a vu ce geste de mettre la main sous la cuisse. Il a fait un vœu et il a tenu parole. Il reste fidèle à sa parole, à Abraham, et puis Dieu a permis qu'il accomplisse son vœu. Et il reste non seulement fidèle à Abraham et par extension à son fils Isaac, fidèle à Abraham et à Isaac, mais il est fidèle à Dieu et il lui rend gloire à Dieu quand il est dans la maison. Et on voit dans tout cela le fait que Eliezer, il est certainement influencé par toute la vie qu'il a passée avec Abraham, qui a foi en Dieu seul, foi dans ce Dieu monothéiste. On voit aussi cette même réaction dans son serviteur, et que je crois fortement que Eliezer avait la même foi qu'Abraham, parce qu'il a vécu avec lui, il a vu les réponses de Dieu dans l'accomplissement des promesses à Abraham. Je pense que l'influence d'Abraham a déteint sur lui et que lui aussi, il est fidèle à Dieu. Alors, c'est des choses que nous pouvons imiter dans notre vie. Et en réfléchissant à ce texte, en réfléchissant à les attitudes et les actes d'Eliezer, je me demande si Eliezer était aussi quelqu'un qui préfigure un autre serviteur, en quelque sorte. Un autre serviteur qui allait ramener une épouse qui continuerait la lignée de la famille. Si on regarde plus loin dans l'histoire, dans l'accomplissement qui est fait à Abraham, on voit quelqu'un d'autre qui vient. Jésus cherchait la direction de son Père en toutes choses. Jésus priait le Père. Jésus honorait le Père seul et il honorait le Père devant les autres. Jésus cherchait le bien de son Père et pas son propre volonté. Jésus était fidèle en toutes choses à son Père. Jésus est resté focalisé sur sa mission. Or, il pouvait par moments ne pas vouloir, par ses émotions, accomplir cette mission. Jésus, si vous voulez, il a, entre guillemets, fait un très long voyage pour nous rencontrer. Et Jésus va ramener une épouse dans le pays de sa famille. Je demande si on peut voir une sorte de précurseur dans la personne d'Eliezer, d'un autre serviteur qui allait venir. Et je vais conclure avec le verset que j'ai prié tout à l'heure, qui se retrouve en Romains chapitre 15, les versets 8 et 9. Et je partage mon écran pour ce dernier verset que Sandrine va nous lire.
Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-Juifs de leur côté louent Dieu à cause de sa compassion.
Voilà. Ce deuxième serviteur d'aujourd'hui est venu se mettre au service des Juifs. Le peuple que Dieu a choisi, dont le père était Abraham. se mettre au service de Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. On voit que Dieu était fidèle à Abraham en donnant Isaac, fidèle à Abraham et son serviteur en donnant une épouse à Isaac, fidèle dans l'accomplissement de la continuité de sa lignée jusqu'à ce serviteur, Jésus. Il sera fidèle à nous aussi qui ne sommes pas juifs. Et pourquoi? À cause de sa compassion. Donc j'espère que ce message vous a encouragé à suivre l'exemple d'un homme d'exception, Eliezer, et puis de vous encourager aussi de suivre cet homme, H majuscule, ce deuxième serviteur, Jésus, tous les deux dans leurs actes et leurs attitudes. Voilà. Merci pour l'écoute.